Bonsoir à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de ce lundi 13 janvier, les Coupes africaines interclubs, les éliminatoires de la CAN féminine des moins de 17 ans, la Super Coupe d'Espagne remportée par le Barça et la retraite annoncée du boxeur Tyson Fury. Et pour décrypter tout cela, comme d'habitude, Élisée Mpatin depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Jules Valentin Ngoué nous rejoint depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Merci Amine Birouk. Lui est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Sy à Columbus, ici dans l'Ohio aux États-Unis. Donc Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs bien sûr de rester à l'écoute. Fin hier de la 5e journée des matchs interclubs de la CAF, de nouvelles qualifications pour les quarts de finale en Ligue des Champions. Élisée, je commence par vous. Dans le groupe C, à la Ligue du Cœur, victorieux, des Ivoiriens du Stade d'Abidjan et les Sud-Africains d'Orlando Pirates, après leur succès face aux Algériens du CR Belouizdad, seront de la partie des quarts.
Oui, apprentissage, on peut dire apprentissage pour le Stade malien, puisque le club n'est plus venu à ce niveau de la compétition il y a très fort longtemps. Et le Stade malien qui a été le deuxième club à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Champions.
On parle du Stade d'Abidjan. Vous aimez bien Bamako, mais il s'agit du Stade d'Abidjan.
Je parlais du Stade d'Abidjan, et effectivement, Stade d'Abidjan qui a été le deuxième club à remporter cette Ligue des Champions. Et bien, son retour en phase de poule a été vraiment difficile pour le moment, avec un seul point battu à domicile, alors que ce club menait 1-0 déjà dès l'entame de la rencontre. Mais les Jérusalem tenants du titre ont usé de leur expérience pour pouvoir renverser les Ivoiriens pour pouvoir l'emporter finalement 3-1 dans l'autre match de ce groupe. Ça a été plus facile pour les Orlando Pirates, vainqueurs de cette compétition en 1995, puisque les Sud-Africains ont battu les Algériens du CR Belouizdad 2-1, et il fallait l'emporter pour se mettre définitivement à l'abri, c'est d'assurer sa qualification. Sinon, au cas où cette victoire n'arrivait pas, eh bien, Orlando Pirates va se mettre seul en difficulté, puisque lors de la dernière journée, eh bien, les Sud-Africains se rendront du côté du Cap pour affronter à la Ligue, le champion en titre. Donc, c'était un match très important. Les Sud-Africains l'ont fait et l'ont emporté 2-1. Et au finish, ils sont pour le moment en tête de ce groupe-là, devant à l'Allée du Caire, puisque la dernière journée qui aura lieu le week-end prochain, eh bien, déterminera qui des Sud-Africains ou encore des Égyptiens, en tout cas, qui des deux équipes, complètement finir en tête de cette poule C.
On espère bien que voilà, ça se passera bien, même si, il faut le dire, le CR Belouizdad et le Stade d'Abidjan sont éliminés. Jules, dans la poule D, c'est l'Espérance de Tunis et Pyramide FC d'Égypte qui ont arraché leur ticket pour les quarts de finale suite à leur victoire respective 1-0 face aux Maliens de Djoliba AC et aux Angolais de Sagrada Esperanza. Alors Jules, on dira la hiérarchie ou encore la logique a été respectée dans une certaine mesure.
Oui, c'est clair, c'est l'idée qui vient à l'esprit tout de suite, c'est la hiérarchie est respectée. Nous voyons des équipes armées, notamment l'Espérance de Tunis, et qui est une équipe indiquée, qui va jouer d'ailleurs la Coupe du Monde des clubs, et qui est régulièrement dans le carré d'as. Elle est là, il y a Pyramide, une des équipes montantes en Égypte, qui lui aussi est à sa place, et surtout face à eux, ils avaient affaire à des équipes soit qui ne sont pas très expérimentées et qui se construisent, soit alors qui sont sur le retour, mais avec moins de moyens que l'équipe d'Afrique du Nord, que ce soit humain ou d'autres. Donc, il n'y a rien à dire. La logique est respectée.
Voilà, il n'y a rien à dire. La logique est respectée. Amdine Sy, est-ce votre avis, notamment ce qui concerne le Djoliba AC de Bamako?
Oui, c'est la logique. Il faut dire que le Djoliba FC, c'est vrai que ça a été une très bonne équipe durant les années 80, etc. Mais présentement, il faut le dire, la marche était trop haute pour les Maliens qui n'ont pas pu quand même décrocher une qualification parce qu'en face, il y avait quand même des équipes redoutables. C'est pourquoi on peut comprendre cette élimination.
Oh, maintenant, ça marche.
Maintenant, il faut aller se préparer pour revenir plus fort parce que déjà le fait d'être dans la phase de poule, ça a été quelque chose de très important pour le Djoliba. Maintenant, il faut aller se préparer pour revenir plus fort, Yacouba.
Voilà, et il veut aller loin, bien sûr, même au-delà de cette phase de poule. Un seul qualifié, donc, pour le moment, dans le groupe B, il s'agit des Marocains de l'ASFA. Les militaires de Rabat ont décroché leur qualification après avoir obtenu le nul, un but partout contre le Raja de Casablanca. De quoi ravir leur entraîneur, Hubert Velut.
Une qualification en Ligue des Champions en quart de finale, c'était attendu depuis très longtemps par ce club. Aussi rendre hommage au staff technique qui a fait un grand travail et les joueurs qui dans le déroulement de cette phase de groupe ont toujours été là mentalement, toujours très bon état d'esprit. On a un vrai groupe, c'était un groupe très difficile. Aujourd'hui, on est qualifié, on passe. Donc maintenant, on a un peu de temps pour progresser encore peut-être un peu plus dans le jeu.
Hubert Velut, entraîneur de l'ASFA de Rabat, au micro d'Amin Birou que nous retrouvons. Alors Amin, avec vous, on fait le film, hein, ou on refait le film de la qualification de l'ASFA.
Et c'était un duel fratricide avec une simple équation. Une victoire et un nul, ou un nul suffirait à l'ASFA pour se qualifier pour la première fois en quart de finale de la Champions League depuis 1988. Ça remonte quand même à 37 ans. Une victoire relancerait les chances du Raja de Casablanca. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ASFA a dominé de la tête et des épaules la première mi-temps et elle a mérité le but d'avance qu'elle a obtenu à la suite d'un corner mal dégagé par un défenseur, Blamri, et qui a trompé le gardien du Raja Nezniti. En deuxième mi-temps, et c'est un scénario immuable depuis l'arrivée d'Hubert Velut au sein de l'équipe de l'ASFA, après une première mi-temps où l'équipe semble dominer son sujet, elle commence à reculer, elle commence à céder et puis elle donne des gages de confiance à l'adversaire. C'est ce qui est arrivé au Raja qui a obtenu un pénalty un quart d'heure de la fin. Un pénalty qui a permis d'égaliser grâce à Zarouni. Et puis, à partir de là, c'est une équipe de l'ASFAR qui s'est liquéfiée. Le Raja a même marqué un deuxième but. Fort heureusement pour l'équipe militaire, l'arbitre de la rencontre, Mohamed Omar, l'arbitre égyptien, l'a annulé pour une charge régulière sur le gardien de but de l'ASFAR. Ce nul suffit maintenant pour l'équipe marocaine, elle se qualifie, elle est en tête avec 9 points. Et aujourd'hui, ce nul n'hypothèque pas les chances du Raja, en tout cas ne condamne pas le Raja, puisque le Raja va devoir sortir la calculette. Il va falloir battre Maniema par 2 buts d'écart et espérer un exploit dimanche prochain à partir de 16h GMT, 17h heure marocaine, de l'équipe de l'ASFA qui se déplace jeudi en Afrique du Sud pour affronter des Mamelodi Sundowns, revenus du diable Vauvert, puisqu'ils ont été surclassés en première mi-temps par Maniema. Mais les Sud-Africains ont fait valoir leur métier et ont gagné 2-1 en déplacement à Kinshasa.
Et justement, dans ce groupe-là, eh bien, on a une équipe, hein, Al Hilal Omdurman, qui s'est aussi qualifiée et même leader. Alors, Jules, de façon surprenante, tout de même, Al Hilal Omdurman, leader du groupe, mais ce qui cale le plus, c'est l'élimination du tout-puissant Mazembe.
Oui, bien sûr. On dit, et Al Hilal a tout simplement respecté la logique de la course de la tortue et du lièvre. Le lièvre et la tortue. Et Al Hilal est parti en trompe dès le départ, sans complexe, dans un groupe qui était franchement homogène, où chacun avait sa chance. Et ayant pris de l'avance, il a joué plus détendu et il s'en est sorti. Et c'est tout le contraire pour le tout-puissant Mazembe qui, lui, est parti la peur au ventre et il a gardé cette peur jusqu'au but, au bout. On a vu un Mazembe qui n'est pas conquérant, un Mazembe qui, d'une manière ou d'une autre, a du mal à changer le cours de la rencontre, à inverser le sens donc de la rencontre ou bien à conserver un acquis. Alors, donc, petit à petit, la maison s'est effritée et Mazembe est tombé. Mais le plus grave, peut-être, c'est qu'on retrouve Mazembe, un candidat pour la fameuse Coupe du Monde des clubs, et qui est au creux de la vague à l'heure actuelle. Et je crois que là, contrairement au Al Ahly, nous aurons peut-être un représentant qui sera en pleine reconstruction.
En Coupe de la Confédération, le tableau est presque complet. Deux clubs algériens, le CS Constantine et l'USM Alger, sont sûrs de voir l'écart. Les Tanzaniens de Simba ont aussi composté leur ticket en tenant un échec. Hein. Bravo Sodo Makis de l'Angola, 1-0. Ça passe aussi pour les Sud-Africains de Stellenbosch, victorieux 2-0 du stade malien. Amdine Sy, tout comme le Djoliba, le stade malien est out.
Oui, le stade malien est out. Ça montre un peu que le football malien est un peu à la traîne. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait des progrès en se qualifiant pour les phases de poule. Comme le Djoliba FC, le stade malien aussi a eu du mérite en se qualifiant pour la phase de poule. Pourtant, ils avaient des adversaires prenables, par exemple les Sud-Africains de Stellenbosch, qui les ont battus par 2-0. Ce n'était pas quand même un adversaire de taille, parce que c'est un club qu'on ne connaît pas bien sur la scène africaine, mais c'est comme ça au niveau du football en Afrique de l'Est, surtout. Nos voisins, les Maliens, que ce soit les Mauritaniens, même les clubs sénégalais, ils ont du mal pour pouvoir quand même tirer leur épingle du jeu au niveau, que ce soit de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Mais le travail doit continuer pour que ces clubs se hissent au niveau des clubs, surtout de l'Afrique du Nord, qui dominent un peu quand même la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, Yacouba.
Alors, Amdine, si je reste avec vous, il reste encore deux places à prendre dimanche à l'issue de la sixième et dernière journée. L'une va se jouer dans la poule C entre Djaraf de Dakar et l'ASEC d'Abidjan dans un duel à distance.
Tout à fait, vous avez raison, puisque le Djaraf a réalisé quand même une très bonne opération en s'imposant à domicile devant l'ASEC d'Abidjan grâce à un but de Abdoulaye Wali qui est inscrit à la 25e minute. Il faut dire qu'avec cette victoire, le Djaraf se relance non seulement dans la course pour la qualification, mais le Djaraf chiffre la deuxième place à l'ASEC d'Abidjan, puisque les Sénégalais comptent désormais 8 points. Ils sont en position favorable hein, parce que maintenant, les choses sont très simples pour le Djaraf. Il faut tout faire pour éviter quand même une défaite face à l'ISMA d'Alger. Comme vous l'avez dit, l'ISMA qui est déjà qualifié. Ce sera un match très difficile pour le Djaraf parce qu'on sait ce qui s'est passé lors de la première match disputée au Sénégal. Il y avait des incidents, mais le Djaraf tentera de ne pas concéder une défaite puisque le Djaraf a son destin en main, contrairement aux Ivoiriens de l'ASEC d'Abidjan, qui compte que 4 points. Eux, ils ont non seulement... ils doivent impérativement gagner face à Opara, mais espérer également un contre-performance de Djaraf pour se qualifier. En tout cas, pour le moment, ballotage favorable pour le Djaraf qui tentera quand même de se qualifier pour les quarts de finale pour la seconde fois de l'histoire, Yacouba.
Voilà, Djaraf donc qui est en ballotage favorable dans cette poule B, dominé totalement hein, par la renaissance sportive de Berkane, même si les Berkanis ont été accrochés lors de la cinquième journée. Amine.
C'est les deux premiers points qui laissent filer, mais il est vrai que l'entraîneur tunisien Moïne Chabani a fait tourner son effectif. Il s'attend à gérer une fin de saison assez compliquée en termes de compétition. L'équipe de Berkane est leader du championnat. Elle rentrera d'Angola et elle enchaînera sur le match contre l'équipe de Stellenbosch. C'est pour évidemment conforter sa place de leader et finir en beauté avec 16 points sur 18 possibles, si possiblement dimanche. Et puis après, va falloir se pencher sur les joues du championnat avec 3 matchs en retard. C'est quand même beaucoup. Donc, il a laissé reposer le gardien Mounir qui n'a même pas fait le déplacement. Issoufou Dayou s'est assis sur le banc de touche. Et l'équipe a joué la rencontre sans trop souffrir face à des Angolais bien timorés qui n'ont pas été très dangereux. Donc, c'est un résultat nul. Qui satisfait l'ensemble de la délégation berkanaise qui s'apprête à disputer des quarts de finale à partir du mois de mars prochain. D'ici là, il y aura des joues de championnat et on verra si Berkane sera enfin capable de gagner pour la première fois de son histoire le titre de champion du monde.
En tout cas, on connaîtra tous les qualifiés pour les quarts de finale et en Ligue des Champions et en Coupe CAF le week-end à venir par la prison des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans. C'est chez les jeunes dames. Et je commence avec vous, Jules Valentin Gouy.
Oui, les éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans a commencé à opposer et ce week-end les équipes souvent mieux vues au premier plan sur la scène africaine à certaines équipes qui sortent un peu de l'anonymat. Alors les deux équipes qui ont attiré notre attention sont l'équipe camerounaise et l'équipe gabonaise. L'équipe camerounaise est partie s'imposer en Égypte par 5-0 dans un match à sens unique pratiquement où les Camerounais ont rapidement imposé leur rythme et leur supériorité. Et Tanasu marquant un triplé et Nkusa Divine et Tiwa Liz complétant la note. Donc, on a vu une production collective pratiquement parfaite et on sent que les filles maîtrisent les fondamentaux, sortent des écoles de football. Ce n'est plus le Hura football où on prenait des gens pour aller s'amuser. Et finalement, elles ont sur le terrain un jeu très rationnel et qui se rapproche des normes internationales. Mais de l'autre côté, peut-être parce que le Gabon a connu des problèmes assez récemment, mais on s'est retrouvé d'abord face à une équipe où on a éliminé certaines joueuses qui ne correspondaient pas aux normes. Alors vous vous rendez compte, l'équipe a été menée à la mi-temps par 12-0. Et en même temps, il y a une joueuse qui devait être exclue. Donc finalement, le nombre était trop réduit pour que la partie puisse continuer ainsi et le Gabon a dû démissionner. Donc En d'autres termes, il faut qu'on prenne ce football au sérieux. Le football est quelque chose qui donne de l'argent maintenant. C'est un levier économique et les filles sont bien parties également dans ce domaine-là pour faire rentrer de l'argent dans leur pays et dans leur famille.
On espère bien pour elles. Alors, Amdil Sy, le Sénégal, lui, a arraché le nul en Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Hein. Les Lioncelles, comme on les appelle, hein, sont revenus d'Abidjan avec un nul miraculeux, hein, il faut le dire, puisque les Lioncelles ont été menées par les Ivoiriennes dès la cinquième minute, hein, mais à force d'attaquer, elles ont fini quand même par remettre les pendules à l'heure, et c'était à la 90e minute, un but signé par Koumba, donc le Sénégal qui revient d'Abidjan avec ce nul. Il faut dire que ce précieux but, hein, marqué à l'extérieur, peut valoir son pesant d'or. On va attendre voir, puisque c'est un léger avantage pour les Sénégalaises. Maintenant, le match retour est prévu le 19 janvier. Ce sera au stade La Diotte de Thiès et on va voir ce qui va se passer. En tout cas, pour le moment, retenons que le Sénégal a arraché un excellent match nul face aux Ivoiriennes sur le score de 2 buts partout. Match retour le 19 janvier au stade La Diotte de Thiès, Yacouba.
Hors du continent africain, le FC Barcelone a remporté hier la Super Coupe d'Espagne en écrasant le Real Madrid 5-2, avec notamment un but sublime du jeune prodige Lamine Yamal à Jeddah en Arabie Saoudite. Élisée, c'était presque un non-match côté madrilène. Élisée, vous m'entendez?
Oui. Allô, Yacouba.
Oui, allez-y. Je disais, Real-Barça en finale de la Super Coupe d'Espagne, c'était presque un non-match côté madrilène.
Eh bien évidemment. Bon, on pensait déjà que avec ce matinal, eh bien, le Real allait dérouler, hein, puisqu'il y a une revanche à prendre. Hein. C'était après la défaite qu'on t'a dit en championnat lors de ce premier classico, et encore que le Real est tenant du titre, il avait déjà même battu facilement le FC Barcelone pour remporter cette coupe. Vous imaginez. Donc après ce but, eh bien, les Barcelonais ont commencé par se retrouver et ont tout simplement déroulé grâce à deux hommes d'un soir très et où tout le Real simplement réussi. Vous avez déjà nommé, Lamine Yamal et puis le Brésilien Rafinha, et qui ont déroulé tout simplement. Ils ont donné du fil à redonde à une équipe madrilène, hein, qui n'a pas pu trouver les solutions, qui était dépassée par la pression imposée par les Catalans, malgré que cette équipe catalane est réduite à 10. Eh bien, on n'a pas du tout senti un retour du Real Madrid.
Alors, Amine Birouk, en dehors de Kylian Mbappé, aucune star madrilène ne semble avoir pris ses responsabilités. En tout cas, c'est mon impression. L'équipe a totalement manqué d'âme.
L'équipe s'est sabordée. D'ailleurs, aujourd'hui, les journaux espagnols ont titré « Sans défense et sans défenseur ». Le Real Madrid bricole depuis de nombreuses années. Et avec les multiples blessures qu'ils ont eues, Militao dans l'axe de la défense, Carvajal à la droite, il n'y a pas de défenseur de métier, hormis Rudiger et Mendy. Sur le côté droit, ce sont des joueurs reconvertis. Et donc, c'est donc du replâtrage. Et on a vu une équipe qui était également partagée en deux, avec trois attaquants qui ne défendent pas, qui ne font pas de repli, et des joueurs qui sont souvent en infériorité numérique. On a même dit que l'équipe a défendu comme des portes de saloon. Et puis physiquement, techniquement, tactiquement, le Barça était au-dessus. Beaucoup de questions sur et beaucoup d'interrogations sur la continuité de Carlo Ancelotti au-delà de la fin de la saison. Et puis beaucoup de pain sur la planche pour Carlo Ancelotti, justement, pour relancer la machine après ce gros faux pas, sachant qu'il y a déjà des matchs de Coupe du Roi dès jeudi, la Liga qui reprend le week-end, et puis il y a les échéances européennes. Le Real Madrid n'est pas sûr de figurer dans le cut entre la 9e et la 24e place qui lui permettrait de disputer des 16e de finale ou des 8e de finale bis, et donc de continuer à aspirer à défendre la 15e Ligue des Champions gagnée il y a quelques mois à Wembley.
Alors, Amdine, si, très rapidement, c'est vrai qu'on parle des carences du Real Madrid, mais il faut le reconnaître, Élisée le disait tout à l'heure, c'est un Barça qui était trop fort pour le Real Madrid.
Tout à fait, Yacouba. C'est une humiliation encore une fois après le 4-0 que les Madrid avaient subi sur leur pelouse. Hein. Mais il faut le dire, quand je regarde le Barça contre le Real, on dirait que c'est un match entre le bien et le mal, tellement que le jeu collectif de ces jeunes Barcelonais, une attaque irrésistible avec un Yamal phénoménal, Rafinha, Lewandowski qui est très très efficace devant les buts, la possession qui tourne autour de 70% pour ces jeunes. Vraiment, c'est le football total quand tu vois quand même le Barça jouer, alors qu'en face, il y a des vedettes. On parle de Mbappé qui est venu renforcer cette équipe. On parle quand même de Vinicius.
Abdissi, malheureusement, on tend vers la fin de cette émission. Je ne vous poserai pas la question de savoir qui est le bien, qui est le mal lorsque vous parlez du Real et du Barça. On va finir avec de la boxe. Trois semaines à peine après sa défaite contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk à Riyad, le Britannique Tyson Fury, champion du monde des lourds à deux reprises, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à 36 ans. On va se rappeler que de par le passé, il avait fait, avant de revenir encore sur le ring Élysée, s'il tient parole cette fois-ci, eh bien, le Britannique de 2,6 m se retirerait avec un bilan remarquable. Hein? 34 victoires, 24 par KO, 1 nul et 2 défaites.
Oui, notamment, hein, surtout 24 avant la limite, vous imaginez, c'est quand même un gros boxeur, un gros pugiste, il faut le dire, et vous l'avez dit, espérons qu'il revienne sur sa décision, puisqu'il l'a déjà fait, déjà, on se rappelle, et puis il a même avancé hein, que c'est pas faute de dépression hein, qu'il quand même est revenu et qu'il faudra qu'il s'entraîne, qu'il faudra qu'il y ait des combats pour lui afin de gérer quand même cet amour. Donc cette fois-ci, il a eu une carrière formidable, mais Yacouba, il faut reconnaître que cette dernière défaite hein, concédée du côté de Riyad en Arabie Saoudite, battue justement par l'Ukrainien Alexandre Usyk, eh bien, ça l'a traumatisé certainement. Mais bon, il a tourné la vidéo dans un véhicule, vous imaginez. En tout cas, on attend de voir si pour cette fois, il va définitivement mettre un terme à sa carrière.
Alors, merci Élisée. Jules, très rapidement, si vous pouvez, en 30 secondes, eh bien, si Tyson Fury quitte bien sûr le ring, il n'y aura pas de match retour contre le Camerounais Francis Ngannou.
Oui, mais on peut se consoler par le fait que ce sont des matchs spectacles et je ne suis pas sûr que Tyson Fury va refuser le prochain cachet qu'on va lui proposer après peut-être un an ou deux pour disons que affronter quelqu'un qui est à ce moment-là au sommet de la pyramide. Donc, je ne fais pas d'illusion. Je crois qu'on va le retrouver dans quelques mois.
Voilà, foi de Jules Valentin Goué. C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette émission Sporama sur VOA Afrique. C'est ici donc que se referme ce numéro. Merci à nos consultants Élisée Mpatin, Jules Valentin Goué, Amine Birouk et Amdine Sy. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, dans quelques secondes, eh bien, une nouvelle édition du journal avec Alexandrine Folloyon. Au revoir.